Chapitre 20. New York, vendredi 26 décembre 1980. Le shérif Gentry aimait bien prendre l'avion, mais sa destination présente ne l'enchantait guère. S'il aimait les voyages aériens, c'était parce que le fait d'être coincé dans un fauteuil à l'intérieur d'un tube pressurisé flottant à des milliers de pieds au-dessus des nuages était fort propice à la méditation. Sa destination, New York, était au contraire un lieu où l'on était tenté de renoncer à toute activité mentale. Une ruche bourdonnante en proie à la violence urbaine, à la paranoïa, à la surinformation et à la démence pure. Gentry avait compris depuis longtemps qu'il n'était pas fait pour les grandes cités. Il savait se débrouiller dans Manhattan. Une douzaine d'années plus tôt, alors qu'il poursuivait ses études à la fac de Chicago et que la guerre du Vietnam battait son plein, il y avait passé plusieurs week-ends avec ses copains. Sa petite amie du moment travaillait dans une agence Hertz, et il était parti un jour en virée à New York au volant d'une voiture de location dont le kilométrage avait été diminué de 3500 kilomètres. Après 4 jours sans sommeil, ses 5 camarades et lui avaient été obligés de balader la voiture pendant 2 heures dans la banlieue de Chicago afin de ramener le compteur à un chiffre légèrement supérieur à celui figurant sur le registre. Gentry prit une navette qui le conduisit à Port Authority. Là, il héla un taxi qui l'amena à l'Edison Hotel, non loin de Times Square. C'était un vieil établissement sur le déclin, surtout fréquenté par des putes et des touristes provinciaux, mais qui conservait encore une certaine fierté. Le cuisinier qui régnait sur la cafétéria était un portoricain bruyant, grossier et talentueux, et le prix de la chambre était inférieur d'un bon tiers à la somme exigée par les autres hôtels de Manhattan. La dernière fois que Gentry était venu à New York, escortant un prisonnier extradé âgé de 18 ans qui avait assassiné 4 commerçants de Charleston, c'était le comté qui avait réservé sa chambre et payé sa note. Gentry prit une douche pour se remettre de la fatigue du voyage, puis changea de tenue, enfilant un pantalon de velours bleu confortable, un vieux pull à col roulé, son blouson de sport marron, une casquette et un manteau qui lui tenait chaud à Charleston, mais n'avait guère de chance de le protéger de l'hiver new-yorkais. Il hésita, puis sortit le rugeur 357 de sa valise et le glissa dans la poche de son manteau. Non, il prenait trop de place et était trop visible. Il le passa à son ceinturon. Non et non. Il n'avait pas apporté son étui, resté rangé avec son uniforme. Quand il n'était pas en service, il prenait toujours le police spécial calibre 38. Pourquoi diable s'était-il encombré de ce rugeur au lieu de prendre une arme plus petite? Finalement, il glissa le revolver dans la poche de son blouson. Il ne pourrait pas boutonner son manteau et serait obligé de le garder même à l'intérieur, afin de dissimuler la présence de son arme. « Et puis merde !» pensa-t-il. « Tout le monde ne peut pas être Steve McQueen. » Avant de sortir de l'hôtel, il appela son domicile à Charleston et actionna son répondeur à distance. Il ne s'attendait pas à y trouver un message de Nathalie, mais il espérait quand même entendre sa voix. Le premier message émanait d'elle. « Rob, ici Nathalie. Il est environ 2 heures de l'après-midi, heure de Saint-Louis. Je viens juste d'arriver, mais je repars tout de suite à bord du prochain avion pour Philadelphie. Je pense avoir trouvé un indice sur la cachette de Mélanie Fuller. Regarde en page 3 du journal de Charleston daté d'aujourd'hui. Et peut-être en parle-t-on aussi dans les journaux de New York. Une guerre des gangs à Germantown. Non, je ne sais pas pourquoi la vieille serait mêlée à une guerre des gangs, mais ça se passe à Germantown. D'après Saul, le meilleur moyen de retrouver la trace de ces types, c'est de s'intéresser aux actes de violence insensés. Je te promets que je resterai discrète. Je me contenterai de jeter un coup d'œil et de voir si cette piste vaut la peine d'être suivie. Je te laisserai un autre message ce soir, quand j'aurai trouvé une chambre d'hôtel là-bas. Il faut que j'y aille. Sois prudent, Rob. Merde. Murmura Gentry en raccrochant. Il composa de nouveau son numéro, soupira en entendant sa propre voix le prier de laisser un message, et dit après le signal sonore « Nathalie, bon sang, ne reste pas à Philadelphie ou à Germantown, ne reste pas où tu es. Quelqu'un t'a vu le soir de Noël. Bon Dieu, si tu ne veux pas rester à Saint-Louis, rejoins-moi ici, à New York. C'est idiot de rester séparé et de courir dans tous les coins en jouant au petit détective. Rappelle-moi ici dès que tu auras reçu ce message. » Il lui donna le numéro de téléphone de l'hôtel et le numéro de sa chambre, marqua une pause, puis raccrocha. « Bon sang !» dit-il. Son poing s'abattit avec tant de force que le vieux bureau faillit s'écrouler. Gentry prit le métro pour se rendre à Greenwich Village et descendit près de Saint-Vincent. Durant le trajet, il feuilleta son carnet de notes, passant en revue ce qu'il y avait consigné. L'adresse de Saul, le nom de sa gouvernante, Théma, que lui avait communiqué Nathalie, son numéro de téléphone à Columbia, le numéro du doyen que Gentry avait appelé 15 jours plus tôt, le numéro de feu Nina Drayton. « C'est maigre, » pensa-t-il. Il appela Columbia et on lui confirma que tous les professeurs du département de psychologie étaient en congé jusqu'au lundi suivant. Le quartier de Saul ne correspondait pas à l'image que s'était faite Gentry du style de vie d'un psychiatre new-yorkais. Mais il se rappela que Saul était professeur plutôt que psychiatre, et le quartier lui parut alors plus approprié. On y voyait surtout des immeubles de rapport de 3 ou 4 étages. Il y avait des restaurants et des épiceries fines à tous les coins de rue, et la compacité du tout évoquait une petite ville tranquille. Quelques couples se promenaient dans les rues, dont 2 hommes se tenant par la main, mais Gentry savait que la plupart des habitants du coin se trouvaient dans le centre-ville, enfermés dans les bureaux d'un éditeur, d'un agent de change ou d'un agent immobilier, bref, dans une cage de verre et d'acier, quelque part entre secrétaire et vice-président sur l'échelle des salaires, occupés à gagner les quelques milliers de dollars nécessaires au paiement du loyer de leurs 3 pièces et attendant l'augmentation, la promotion, l'inévitable montée à l'échelon supérieur qui leur permettrait de travailler dans un bureau plus grand, avec baies vitrées donnant sur la ville, et de prendre le taxi tous les soirs pour rentrer dans leur superbe demeure de Central Park West. Le vent se leva. Gentry s'emmitoufla dans son manteau et pressa le pas. Le docteur Saul Lasky n'était pas chez lui. Gentry n'en fut pas surpris. Il frappa de nouveau à sa porte et attendit sur les 3 paliers, écoutant le bruit étouffé de la télévision et des cris d'enfants, reniflant un résidu d'odeur de corned beef et de choux. Puis il sortit une carte de crédit de son portefeuille et fit jouer la serrure. Gentry secoua la tête. Saul Lasky était un expert universellement reconnu en matière de violence, un survivant des camps de la mort, mais son domicile laissait beaucoup à désirer sur le plan de la sécurité. C'était un appartement plutôt grand pour Greenwich Village. Une salle de séjour confortable, une petite cuisine, une chambre encore plus petite et un vaste bureau. Il y avait des livres dans toutes les pièces, même dans la salle de bain. Le bureau était plein de carnets de notes, de chemises soigneusement étiquetées et de livres qui se comptaient par centaines. Nombre d'entre eux étaient en polonais ou en allemand. Gentry fouilla toutes les pièces, feuilleta le manuscrit soigneusement empilé à côté d'une machine à écrire IBM, puis se prépara à partir. Il se faisait l'impression d'être un intrus. L'appartement semblait inhabité depuis 1 semaine ou 2. La cuisine était immaculée, le réfrigérateur presque vide, mais il n'y avait pas de poussière, pas de courrier accumulé dans un coin, aucun signe visible d'absence prolongée. Gentry vérifia qu'il n'y avait aucun message près du téléphone, fit un tour rapide des pièces pour s'assurer de n'avoir négligé aucun détail susceptible de lui apprendre où se trouvait Saul, puis sortit le plus discrètement possible. Il avait descendu un étage, lorsqu'il croisa une vieille dame aux cheveux gris retenus en chignon. Gentry s'arrêta près d'elle, toucha sa casquette et dit « Excusez-moi, madame, ne seriez-vous pas Théma ?» La vieille dame fit halte et le regarda d'un air soupçonneux. Elle avait un fort accent slave.
« Je ne vous connais pas. »
« Non, madame. » Gentry ôta sa casquette. « Et je m'excuse de vous appeler par votre prénom, mais Saul n'a pas mentionné votre nom de famille quand il m'a parlé de vous. »
« Mrs. Walijelski, » dit la vieille dame. « Qui êtes-vous ? »
« Je suis le shérif Bobby Joe Gentry. Je suis un ami de Saul et j'essaye de le retrouver. »
« Le docteur Lasky ne m'a jamais parlé d'un shérif Gentry. »
Elle prononça Gentry. « Non, madame, c'est peu probable. Nous avons fait connaissance il y a à peine 15 jours, quand il est descendu à Charleston. C'était en Caroline du Sud. Peut-être vous a-t-il dit qu'il allait se rendre là-bas ? »
« Le docteur Lasky m'a seulement dit qu'il partait en voyage d'affaires, »
dit-elle sèchement. Elle renifla.
« Comme si je n'avais pas vu ses billets d'avion. 2 jours, il m'a dit, peut-être 3. Mrs. Walijelski, il m'a dit, si vous voulez avoir la gentillesse d'arroser mes plantes, au bout de 10 jours, ces plantes seraient crevées si je n'étais pas là pour m'en occuper. »
« Mrs. Walijelski, avez-vous vu le docteur Lasky cette semaine ?» La vieille dame tirailla sur sa veste et ne dit rien. « Nous avions rendez-vous. Saul m'a dit qu'il me rappellerait dès son retour, sans doute samedi dernier. Mais je n'ai pas eu de ses nouvelles. »«
Il n'a aucune notion du temps. Son neveu m'a appelé de Washington la semaine dernière. Est-ce qu'oncle Saul va bien ? Il devait venir dîner chez moi samedi. » Il m'a dit, tel que je connais le docteur Lasky, il a dû oublier. Il est allé quelque part participer à un séminaire. Est-ce que je pouvais le dire à son neveu, sa seule famille ici en Amérique?
C'est ce neveu qui travaille à Washington?
Il n'y en a pas d'autre.
Gentry hocha la tête, puis remarqua que son interlocutrice était mal à l'aise et faisait mine de partir. « Saul m'a dit que je pouvais le contacter chez son neveu, mais j'ai égaré son numéro de téléphone. Il habite bien à Washington, n'est-ce pas ?»«
Non, non, c'est l'ambassade qui est à Washington. Le docteur Lasky m'a dit que son neveu habitait à la campagne maintenant. »«
Saul pourrait-il se trouver à l'ambassade de Pologne ?» Elle le regarda en plissant les yeux.
« Qu'est-ce que le docteur Lasky irait faire à l'ambassade de Pologne ?» « Aaron travaille à l'ambassade d'Israël, mais ce n'est pas là qu'il vit. Vous dites que vous êtes un shérif ? Qu'est-ce que le docteur Lasky peut bien avoir à faire avec un shérif ?»
J'ai été passionné par son livre. Gentry prit un stylo à billes et griffonna au dos d'une de ses cartes de visite mal imprimées. « Voilà le numéro de l'hôtel où je loge ce soir. L'autre numéro est celui de mon domicile à Charleston. » « Dès que Saul sera revenu, dites-lui de m'appeler, c'est très important. » Il descendit quelques marches.
« Au fait, »
dit-il en se retournant, « quand j'appellerai l'ambassade, est-ce qu'il y a un seul « e » ou 2 « e » dans le nom du neveu de Saul ?»«
Comment pourrait-il y avoir 2 « e » dans Eshcol ?»
gloussa Mrs. Walijelski. « En effet. » Et Gentry se remit à supplicier l'escalier sous son pas lourd. Nathalie ne l'appela pas. Gentry attendit jusqu'à 10 heures, téléphona à Charleston et n'eut droit qu'au premier message de la jeune femme et à sa propre tirade. Il rappela à 11h10, toujours rien. À 1h15, il renonça et essaya de s'endormir. Le bruit qui traversait le mur semblait provenir d'un groupe d'Iraniens en train de se quereller. À 3 heures du matin, il appela Charleston une nouvelle fois. Toujours rien. Il laissa un autre message, s'excusant de sa grossièreté et insistant sur le fait que Nathalie ne devait pas rester seule à Philadelphie. Il se leva de bon matin, appela de nouveau son répondeur, laissa un message pour indiquer à Nathalie le nom de l'hôtel de Washington où il avait réservé une chambre et prit le vol de 8h15. Le trajet était trop bref pour lui donner le temps de réfléchir en profondeur, mais il sortit de son attaché case son carnet de notes et un dossier et les étudia. Nathalie avait entendu parler de l'attentat du 20 décembre au bureau des sénateurs et avait craint que Saul n'y soit mêlé. Gentry lui avait fait remarquer que le vieil Oberst de Saul ne pouvait pas être responsable de tous les assassinats, accidents et attentats terroristes survenant en Amérique. Il lui avait rappelé que d'après le journal télévisé, l'explosion qui avait fait 6 morts avait été revendiquée par des nationalistes portoricains. Il lui avait signalé que l'attentat avait été commis à peine quelques heures après l'arrivée de Saul en ville, que son nom ne figurait pas sur la liste des victimes, bien que l'auteur de l'attentat n'ait pas été identifié, et qu'elle devenait paranoïaque. Nathalie avait été rassurée. Gentry avait encore des doutes. Il était 11 heures passées lorsque Gentry arriva devant le siège du FBI. Il ne savait pas si quelqu'un y travaillait le samedi matin. Une réceptionniste lui confirma que l'agent spécial Richard Haynes était dans son bureau et elle le fit attendre plusieurs minutes avant d'appeler cet homme si occupé. Elle lui annonça que l'agent spécial Haynes allait le recevoir. Gentry dissimula sa joie. Un jeune homme au costume coûteux et à la moustache pitoyable, un G-man qui avait encore une allure de boy scout, le conduisit dans un local de sécurité où il fut pris en photo, dut remplir une fiche, passa devant un détecteur de métal et se vit octroyer une carte d'accès temporaire. Gentry se félicita d'avoir laissé le rugeur dans sa valise à l'hôtel. Sans dire un mot, le jeune homme conduisit Gentry au bout d'un couloir, dans un ascenseur, à travers un bureau compartimenté, au bout d'un autre couloir, et frappa à la porte du bureau de l'agent spécial Richard Haynes. Lorsqu'une voix les eut invités à entrer, le jeune homme hocha la tête et tourna les talons. Gentry eut envie de le rappeler pour lui donner un pourboire, mais il se retint. Le bureau de Richard Haynes était aussi vaste et aussi bien décoré que celui de Gentry était étroit et désordonné. Plusieurs photographies étaient accrochées au mur. Gentry aperçut un homme joufflu aux yeux porcins, peut-être le regretté J. Edgar Hoover, en train de serrer la main à un Richard Haynes un peu moins grisonnant, puis on lui fit signe de prendre un siège. Richard Haynes ne daigna ni se lever, ni lui tendre la main. « Qu'est-ce qui vous amène à Washington, shérif Gentry ?» demanda Haynes de sa voix moelleuse de baryton. Gentry changea de position sur son siège trop petit, estima que celui-ci avait été conçu dans le but de mettre les gens mal à l'aise et s'éclaircit la gorge. « Je suis en vacances, Dick, et j'avais envie de vous dire un petit bonjour. » Haynes haussa un sourcil sans cesser de trier ses papiers. « C'est fort aimable à vous, shérif, mais nous sommes très occupés ce week-end. Si vous venez me voir au sujet des meurtres de Mansard House, je n'ai rien à vous communiquer qui n'ait déjà été transmis à votre bureau par l'intermédiaire de notre agence d'Atlanta. » Gentry croisa les jambes et haussa les épaules. « Je passais dans le coin et j'ai eu envie de vous voir, c'est tout. Vous êtes vraiment bien installé ici, Dick. » Haynes grogna une réponse. « Hey !» fit Gentry. « Qu'est-ce qui est arrivé à votre menton? On dirait qu'on vous a filé un fameux nion. Une arrestation qui a mal tourné ?» Haynes toucha son menton où un hématome se devinait sous un pansement. Le fond de teint couleur chair ne parvenait pas à dissimuler entièrement la blessure. Il eut un sourire penaud. « Ça ne me vaudra pas une médaille, shérif. Hier, j'ai glissé en sortant de ma baignoire et je me suis cogné le menton à un porte-serviette. J'aurais pu me tuer. » « Ouais. On dit que les accidents les plus graves se produisent toujours à la maison, » dit Gentry d'une voix traînante. Haynes opina et jeta un coup d'œil à sa montre. « Hey !» fit Gentry. « Est-ce que vous avez reçu la photo qu'on vous a envoyée ?»«
La photo ? Ah oui, celle de la femme qui a disparu, Mrs. Fuller. Oui, merci, shérif. Elle a été transmise à tous nos agents de terrain. »«
Bien, bien. Vous ne savez toujours pas où elle a pu passer, n'est-ce pas ? » ?»«
cette Fuller ?
Non.
Je continue de penser qu'elle est morte. À mon avis, nous ne retrouverons jamais son corps.
Vous avez sans doute raison.
Dites donc, Dick, je suis passé près du Capitole en venant ici, et au coin de la rue, il y avait un bâtiment entouré par des barricades, avec des ouvriers qui remplaçaient une fenêtre au premier étage. Est-ce que ce ne serait pas le... Comment déjà ?
Le bureau des sénateurs.
Ouais, c'est bien là que des terroristes ont fait sauter un sénateur il y a environ 8 jours.
Un terroriste.
Il a agi seul. Et le sénateur du Maine n'était même pas en ville lorsque c'est arrivé. C'est son conseiller politique, un membre influent du parti républicain nommé Trask, qui a été tué. Aucune autre victime notable.
Je parie que vous vous occupez de cette affaire, pas vrai ?
Haynes soupira et reposa ses papiers.
Ce bureau est grand, shérif. Il y a beaucoup d'agents ici.
Ouais, pour sûr.
On dit que ce terroriste était un portoricain.
C'est vrai ?
Désolé, shérif. Je suis soumis à l'obligation de réserve.
Bien sûr. Et vous vous rappelez ce psychiatre de New York, le docteur Lasky ?
Saul Lasky. Il enseigne à Columbia. Oui, nous avons vérifié son emploi du temps durant le week-end du 13. Il participait à un débat, tout comme vos sources vous avaient informé. Il est probablement descendu à Charleston pour faire de la pub pour son prochain livre.
Peut-être. Mais le problème, c'est qu'il devait m'envoyer des informations sur ses meurtres en série, et maintenant je n'arrive plus à le retrouver.
Vous ne l'avez pas mis sous surveillance, n'est-ce pas ?
Non.
Fit Haynes en jetant un nouveau coup d'œil à sa montre.
Pourquoi aurions-nous fait ça ?
Ce n'était pas nécessaire.
Mais je pense que Lasky est venu ici à Washington. Samedi dernier, je crois bien. Le jour même où il y a eu cet attentat terroriste au bureau des sénateurs.
Et alors ?
Gentry haussa les épaules. J'ai eu l'impression que ce type essayait de mener sa propre enquête. Je pensais qu'il aurait pu venir faire un tour par ici.
Je ne l'ai pas vu.
Shérif, j'aimerais bien pouvoir bavarder encore avec vous, mais j'ai un autre rendez-vous dans quelques minutes.
Bien sûr, dit Gentry en se levant et en remettant sa casquette.
Vous devriez demander à quelqu'un de s'occuper de ça.
De quoi ?
De votre menton ? C'est vraiment un sale nion.
Gentry descendit la 9e rue en direction du Mail, traversa Pennsylvania Avenue et passa devant le ministère de la Justice. Il se dirigea ensuite vers Constitution Avenue, passa devant l'immeuble des impôts, reprit Pennsylvania Avenue et monta 4 à 4 les marches de la vieille poste. Personne ne semblait le suivre. Il alla jusqu'à Pershing Park et aperçut le toit de la Maison Blanche. Il se demanda si Jimmy Carter s'y trouvait en ce moment, pensant aux otages et maudissant les Iraniens qui avaient peut-être causé sa défaite. Gentry s'assit sur un banc et sortit son carnet de notes de sa poche. Il feuilleta ses observations rédigées d'une écriture serrée, puis referma le carnet et poussa un soupir. Impasse. Et si Saul était un escroc ou un paranoïaque ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que.
D'accord. Où diable est-il passé alors ?
Va faire un tour à la bibliothèque du Congrès et consulte les journaux de la semaine dernière. Rubrique nécrologique et accident de la route. Appelle les hôpitaux.
Et s'il était à la morgue, considéré comme un portoricain non identifié ?
Ça n'a aucun sens.
Quel rapport pourrait-il y avoir entre Lawburst et le conseiller d'un sénateur ? Et entre Lawburst, John Kennedy et Jack Ruby ?
Gentry se frotta les yeux.
Toute cette histoire se tenait à peu près lorsqu'il avait écouté Saul la raconter à Charleston dans la cuisine de Nathalie. Les pièces du puzzle s'étaient assemblées. Une série de meurtres sans mobile apparent était devenue une série d'attaques et de feintes orchestrée par 2 ou 3 adversaires doués d'incroyables pouvoirs. Mais aujourd'hui, ça n'avait plus aucun sens. À moins que... À moins qu'il n'y en ait davantage. Gentry se redressa sur son siège. Saul devait rencontrer quelqu'un ici, à Washington. En dépit de toutes les confidences qu'il leur avait faites à Nathalie et à lui, il avait refusé de leur dire qui. Un membre de sa famille. Pour quelle raison ? Gentry se rappelait le chagrin avec lequel Saul avait évoqué la disparition du détective privé qu'il avait engagé, Francis Harrington. Peut-être avait-il décidé de demander de l'aide ? Un neveu travaillant à l'ambassade d'Israël ? Mais peut-être quelqu'un d'autre était-il impliqué ? Qui donc ? Le gouvernement ? Gentry ne voyait pas pourquoi le gouvernement fédéral s'occuperait de la protection d'un ancien nazi vieillissant. Mais s'il y en avait d'autres comme l'Oberst, Fuller et Drayton ? Le shérif frissonna et resserra son manteau autour de lui. La journée était belle et le ciel dégagé. La température avoisinait le zéro. La faible lumière hivernale teintait d'or l'herbe brunâtre et cassante du parc. Il trouva une cabine téléphonique non loin du Washington Hotel et utilisa sa carte de crédit pour appeler Charleston. Toujours aucun message de Nathalie. Gentry appela l'ambassade d'Israël, composant le numéro qu'il avait trouvé dans l'annuaire de sa chambre. Il se demanda si le personnel de l'ambassade travaillait le jour du sabbat. Une femme lui répondit. « Bonjour, » dit Gentry, réprimant l'envie soudaine qu'il avait de dire « Shalom ». Pourrais-je parler à Aaron Eshkol ? Sa correspondante hésita un bref instant avant de lui demander « De la part de qui, s'il vous plaît ?»« Du shérif Robert Gentry. » »« Une seconde, s'il vous plaît. » La seconde s'étira jusqu'à devenir deux bonnes minutes. Gentry garda le combiné collé à son oreille et contempla l'immeuble du trésor de l'autre côté de la rue. S'il existait d'autres créatures comme l'Oberst, d'autres vampires psychiques, cela expliquerait bien des choses. Pourquoi l'Oberst avait estimé nécessaire de simuler sa propre mort, par exemple? Et pourquoi le shérif du comté de Charleston avait été pris en filature pendant une semaine et demie? Et pourquoi les propos de certains agents du FBI lui donnaient envie de casser la figure au dit agent? Et ce qui était arrivé à certains recueils de coupures de presse macabres, aperçus pour la dernière fois sur les lieux d'un meurtre. « Allô ?»«
Oh, bonjour, monsieur Eshkol. Ici le shérif Bobby Gentry. »«
Ici Jack Cohen. »«
Oh, eh bien, monsieur Cohen, je souhaiterais parler à Aaron Eshkol. »«
Je suis le chef du service où travaille monsieur Eshkol. Vous pouvez vous adresser à moi, shérif. »«
En fait, monsieur Cohen... » J'appelle pour des questions personnelles.
Êtes-vous un ami d'Aaron, shérif ?
Gentry savait que quelque chose clochait, mais il ne voyait pas quoi.
Non, monsieur, je suis un ami de Saul Lasky, l'oncle d'Aaron. J'ai besoin de parler à Aaron.
Il y eut un bref silence.
Il vaudrait mieux que vous veniez ici en personne, shérif.
Gentry consulta sa montre.
« Je ne suis pas sûr d'en avoir le temps, monsieur Cohen. Si vous voulez bien me passer à Ron, je verrai avec lui si c'est nécessaire. »«
Très bien. D'où nous appelez-vous, shérif ? De Washington ? »«
Ouais, d'une cabine. »«
Êtes-vous dans le centre-ville ? Quelqu'un peut-il vous indiquer la direction de l'ambassade ?»
Gentry s'efforça de maîtriser son irritation grandissante.
« Je suis juste à côté du Washington Hotel. » Passez-moi à Ron Eshkol ou donnez-moi le numéro de son domicile. Si j'ai besoin d'aller le voir à l'ambassade, je prendrai un taxi.
Très bien, shérif. Rappelez dans 10 minutes, s'il vous plaît.
Cohen raccrocha avant que Gentry ait eu le temps de protester. Il fit les 100 pas devant l'hôtel, furibond, tenté par l'idée d'aller récupérer ses bagages et de prendre le premier avion pour Philadelphie. C'était ridicule. Il savait à quel point il était difficile de retrouver une personne portée disparue à Charleston, où il disposait de 6 adjoints et d'une 60aine de contacts. C'était absurde. Il rappela l'ambassade 2 minutes avant l'expiration du délai qui lui avait été accordé. Ce fut la même femme qui lui répondit.
Oui, shérif. Une seconde, s'il vous plaît.
Gentry soupira et s'appuya contre les montants métalliques de la cabine. Un objet pointu s'enfonça dans son flanc. Gentry se retourna, vit les deux hommes tout près de lui, trop près de lui, vit le plus grand des deux lui adresser un large sourire. Puis Gentry baissa les yeux et vit le canon d'un automatique de petit calibre pressé contre son flanc. « Nous allons marcher jusqu'à cette voiture et y monter, » dit l'homme avec un sourire radieux. Il tapa Gentry sur l'épaule, comme s'ils étaient deux vieux amis se retrouvant après une longue séparation. Le canon s'enfonça un peu plus. Ce type était trop près de lui, pensa Gentry. Il avait une chance de détourner son arme avant qu'il ait le temps de tirer. Mais son équipier avait reculé d'1,50 m. Sa main droite était enfoncée dans la poche de son imperméable, et quoi que fasse Gentry, il resterait dans sa ligne de mire.
« Allons-y, » dit l'homme.
Gentry obtempéra. Ce fut une belle visite. Ils firent le tour de l'ellipse, prirent la direction du Memorial Lincoln, contournèrent le bassin maritime, puis empruntèrent Jefferson Drive pour se diriger vers le Capitole, passant devant Union Station et repartant en sens inverse. Personne ne fit de commentaire. La limousine était confortable, vaste et silencieuse. Les vitres étaient opaques vues de l'extérieur. Le verrouillage des portes se faisait par commande automatique depuis le siège du chauffeur, qu'une vitre en plexiglas séparait des autres passagers, et les deux hommes de la cabine étaient assis de part et d'autre de Gentry. Devant lui, assis sur un strapontin, se trouvait un homme aux cheveux blancs mal coiffés, aux yeux tristes et au visage bosselé et grêlé, qui réussissait quand même à paraître beau.
« Je vais vous donner un tuyau, les mecs, » dit Gentry. « Le kidnapping est interdit par la loi dans ce pays. »«
Pourrais-je avoir une pièce d'identité, monsieur Gentry ?»
demanda doucement l'homme aux cheveux blancs.
Gentry passa mentalement en revue plusieurs protestations indignées. Puis il haussa les épaules et sortit son portefeuille.
Personne ne sursauta quand il le saisit. Les deux hommes l'avaient fouillé dès qu'il était monté dans la voiture.
« Votre voix ressemble à celle de Jack Cohen, » dit Gentry.
« Je suis Jack Cohen, »
dit l'autre en examinant le contenu de son portefeuille. « Et vous avez sur vous les papiers, les cartes de crédit et les objets personnels d'un shérif sudiste nommé Robert Joseph Gentry.
Bobby Joe, pour mes amis et mes administrés. L'Amérique est un des pays où les papiers d'identité ont le moins de valeur, » dit Jack Cohen.
Gentry haussa les épaules.
Son instinct lui conseillait de leur expliquer à quel point il s'en fichait, et de leur suggérer de se livrer à certaines pratiques que la morale réprouve.
« Pourrais-je voir vos papiers ?» dit-il. « Je suis Jack Cohen.
»« Vous êtes vraiment le patron d'Aaron Eshcol ?»«
Je suis le chef de la section communication et interprétariat de l'ambassade. »«
C'est le service où travaille Aaron ?»
Oui. Vous ne le saviez pas.
Pour ce que j'en sais, Aaron Eshcol est l'un de vous trois. Je ne l'ai jamais rencontré.
Et quelque chose me dit que je ne le rencontrerai jamais.
Pourquoi dites-vous ça, monsieur Gentry?
La voix de Cohen était aussi égale et glacée qu'une lame de couteau.
Disons que c'est une intuition. Je téléphone à l'ambassade pour parler à Aaron Eshcol. Et on me fait poireauter le temps que vous bondissiez dans la limousine la plus proche pour me faire faire une visite guidée de la ville. Maintenant, si vous êtes celui que vous prétendez être, et qui diable le saurait avec certitude, votre conduite n'est guère conforme à celle d'un ressortissant de notre vaillant allié du Proche-Orient. Mon intuition me dit qu'Aaron Eshcol est mort, ou a disparu, et que ça vous embête. Au point de menacer d'une arme un officier de police élu par le peuple américain.
Continuez.
Allez vous faire foutre. J'en ai assez dit.
À votre tour.
Dites-moi ce qui se passe et je vous dirai pourquoi j'ai appelé Aaron Eshcol.
Nous pourrions vous engager à parler en utilisant d'autres moyens,
L'absence de toute menace dans la voix de Cohen était elle-même une menace.
J'en doute.
Sauf si vous n'êtes pas celui que vous prétendez être.
Quoi qu'il en soit, je ne dirai rien tant que vous ne m'aurez rien dit d'intéressant.
Cohen jeta un coup d'œil au paysage de marbre, puis se retourna vers Gentry.
Aaron Eshcol est mort, assassiné. Lui, sa femme et ses deux filles.
Quand ça?
Il y a 2 jours.
Le jour de Noël? Marmonna Gentry. Vous parlez d'une période de fête?
Comment ont-ils été tués?
On leur a enfoncé une tige d'acier dans le cerveau. La voix de Cohen était aussi neutre que celle d'un mécanicien expliquant le déroulement d'une réparation.
Bon Dieu, souffla Gentry. Pourquoi les journaux n'en ont-ils pas parlé?
Il y a eu une explosion et un incendie. Le coroner de l'État de Virginie a conclu à une mort accidentelle, due à une fuite de gaz. Les agences de presse n'ont pas été informées des liens d'Aaron avec l'ambassade.
Ce sont vos propres docteurs qui ont découvert la véritable cause de leur mort?
Oui. Hier.
Mais pourquoi vous êtes affolé comme ça quand j'ai appelé?
Aaron devait avoir...
Non, attendez. J'ai mentionné le nom de Saul Lasky. Vous pensez que Saul est peut-être indirectement à l'origine de la mort d'Aaron?
Effectivement.
D'accord, souffla Gentry. Qui a tué Aaron Eshcol?
Cohen secoua la tête.
À votre tour, shérif.
Gentry resta silencieux et ordonna ses pensées.
Vous devez comprendre, poursuivit Cohen, qu'il serait en effet désastreux pour Israël d'offenser les contribuables américains durant cette période critique de l'histoire de nos deux pays. Nous sommes prêts à courir le risque de vous relâcher si vous parvenez à nous convaincre. Dans le cas contraire, il vaudrait mieux pour tout le monde que vous disparaissiez.
Taisez-vous, je réfléchis.
Ils passèrent pour la 3e fois devant le monument Jefferson et traversèrent un pont. Le monument Washington se dressait devant eux.
Il y a 10 jours, Saul Lasky est venu à Charleston pour enquêter sur les meurtres de Mansard House. CBS a appelé ça le massacre de Charleston. Vous avez entendu parler de nos petits ennuis?
Oui.
Des personnes âgées assassinées pour leur argent et des témoins innocents éliminés, c'est ça?
En gros.
Une de ces personnes âgées était un ex-nazi vivant sous le nom de William D. Borden.
Un producteur de cinéma,
dit l'Israélien aux cheveux frisés assis à gauche de Gentry.
Celui-ci sursauta, et il avait presque oublié que les gardes du corps étaient doués de la parole.
Ouais.
Et ça faisait 40 ans que Saul Lasky pourchassait ce nazi, depuis Helmno et Sobibor.
C'est quoi ça?
Demanda le jeune homme assis à droite du shérif. Gentry fixa sur lui des yeux ronds. Cohen lui parla sèchement en hébreu et le jeune agent rougit.
L'Allemand, Borden. Il est mort, n'est-ce pas?
Demanda Cohen. Dans un accident d'avion, en théorie. Mais Saul ne le pensait pas.
Le docteur Lasky supposait donc que son vieux tortionnaire était encore en vie,
dit Cohen d'une voix songeuse.
Mais quel rapport y a-t-il entre Borden et les meurtres de Charleston?
Gentry ôta sa casquette et en caressa la visière.
De vieux comptes à régler.
Saul n'en était pas exactement sûr, mais il avait l'impression que l'Oberst, c'est ainsi qu'il appelait Borden, était dans le coup d'une manière ou d'une autre.
Pourquoi Lasky est-il venu voir Aaron?
Gentry secoua la tête.
Je ne savais pas qu'il s'était vu.
Ce n'est qu'hier que j'ai appris l'existence d'Aaron Eshcol. Saul a quitté Charleston pour Washington, où il devait retrouver quelqu'un le 20. Il n'a pas voulu me dire qui. Il devait rester en contact avec moi, mais je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis que je l'ai quitté. Hier, je suis allé visiter son appartement de New York et j'ai parlé à sa gouvernante.
« Tema, » dit le premier garde du corps, avant de se taire, sous le regard noir que lui lança Cohen.
« Ouais. » Elle m'a parlé d'Aaron, et me voilà.
Pour quelle raison le docteur Lasky voulait-il parler à Aaron?
demanda Cohen. Gentry posa sa casquette sur ses genoux et écarta les bras.
« Je n'en ai pas la moindre idée.
J'ai eu l'impression que Saul cherchait des informations sur les activités de Borden en Californie. Aaron aurait-il pu l'aider à en obtenir ?»
Cohen se mordit à les lèvres quelques secondes avant de lui répondre.
« Aaron a pris 4 jours de congé avant de rencontrer son oncle. Il en a passé une partie en Californie.
Qu'a-t-il appris là-bas ?
Nous l'ignorons.
Comment savez-vous qu'il a rencontré Saul ?
Est-ce que Saul est allé à votre ambassade ?»
Le premier garde du corps prononça en hébreu quelques phrases qui ressemblaient à un avertissement. Cohen choisit de l'ignorer.
« Non, dit-il. Le docteur Lasky a rencontré Aaron il y a 8 jours à la National Gallery. Aaron et Levy Cole, un de ses collègues de travail, considéraient cette rencontre comme très importante. Durant cette semaine-là, selon certains de leurs amis, Aaron et Levy ont rangé dans le coffre de la section cryptographie des documents importants à leurs yeux.
Que contenaient ces documents ?
Demanda Gentry, sans grand espoir d'obtenir une réponse.
Nous l'ignorons. Quelques heures après le meurtre d'Aaron et de sa famille, Levy Cole est venu à l'ambassade et a soustrait ses documents. On ne l'a plus revu depuis.
Il se frotta l'arête du nez.
Et tout cela n'a aucun sens. Levy est célibataire. Il n'a aucune famille en Amérique, il n'a plus aucune famille en Israël. C'est un sioniste convaincu, un ancien commando. Je ne vois pas comment ils peuvent le tenir. Selon toute logique, c'est lui qu'ils auraient dû éliminer et Aaron Eshkol qu'ils auraient dû faire chanter. La question étant, bien sûr, qui sont-ils ?
Gentry resta muet.
« D'accord, shérif, reprit Cohen. Veuillez à présent nous dire tout ce qui pourrait nous être utile. »
C'est à peu près tout. À moins que vous ne vouliez entendre l'histoire de Saul.
Comment pourrais-je la leur raconter sans mentionner les pouvoirs de l'Oberst et des vieilles dames ? Pensa-t-il.
Ils ne me croiront jamais. Et s'ils ne me croient pas, je suis un homme mort.
Nous voulons tout entendre, dit Cohen. Et depuis le début. La limousine passa devant le Memorial Lincoln et se dirigea vers le bassin maritime.